Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur a comme titre « Des vies qui parlent ». Des vies qui parlent. Le plus beau témoignage que puisse rendre votre assemblée, ce n'est pas forcément au travers d'orateurs extraordinaires, mais le plus souvent par des gens ordinaires comme vous et moi, exprimant dans leur manière de traverser les circonstances de la vie, leur attachement au Seigneur et leur confiance dans la parole de Dieu. Deux exemples. Mes grands-parents, nos grands-parents, René et Julia Corbizier, étaient de simples cultivateurs à Ransbèche, Ohain. Je ne les ai jamais entendus ni prier ni prêcher dans l'assemblée. Ils étaient simplement fidèles, honnêtes, accueillants. Et ce sont ces qualités-là qui ont touché beaucoup de gens. J'ai reçu le témoignage un jour d'un couple de vieux horticulteurs de Gaillemarde, le village à côté, me disant, apprenant que j'étais le petit-fils de Julia et de René, ça, monsieur, ça, c'était des chrétiens, des vrais chrétiens. Pourquoi ils m'ont dit ça? Parce que pendant la guerre, on pouvait aller chez eux avec le vélo, acheter des pommes de terre, acheter des céréales, et ils ne se sont pas enrichis dans la guerre. Ils n'ont pas fait du marché noir. Ils ont vendu au prix juste pour permettre aux gens de traverser la guerre. Au point que mes autres grands-parents maternels venant de Jolimont allaient en vélo jusqu'à Ransbèche pour chercher de quoi nourrir la famille. Ça, monsieur, c'était des chrétiens, des vies qui parlent. J'ai le témoignage aussi de notre doctoresse qui est juive, qui habite notre village et qui m'a dit un jour, sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que pendant la guerre, mes grands-parents, qui étaient juifs, maréchal Ferrand à Waterloo, eh bien, ils ont eu de la chance d'avoir vos grands-parents. Parce qu'ils pouvaient avoir de la nourriture, plusieurs familles les ont cachés et ils ont pu traverser la guerre. Et elle était très émue en allant dans la ferme de mes grands-parents s'occuper d'un oncle qui était à la fin de sa vie en disant « Si ces gens-là n'avaient pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. » Des vies qui parlent. Sans oublier que ils ont aidé beaucoup d'autres aussi. Tant que ma grand-mère a vécu, ils ont accueilli des enfants du bercail. Et ils ont été accueillants pour tant de jeunes. Et puis le dimanche, il y avait deux réunions à Ransbèche. Il y avait une le matin, une l'après-midi. Et entre les deux, ils allaient reciner à Alsace. Ils allaient manger leur goûter à la ferme. Et ma grand-mère faisait des pains comme ça, elle faisait des tartes. Et il y avait une communion fraternelle dans cette famille qui a touché beaucoup, beaucoup de gens. Aujourd'hui encore, les gens s'en souviennent. Et puis, je n'oublie pas non plus les paroles de mon grand-père, de notre grand-père René, la veille de sa mort. Il ne mangeait plus, il était en train de partir. Et je lui ai dit, bon papa, si tu continues comme ça, tu ne vas plus rester longtemps avec nous. Et il m'a dit, c'est rien Jean-Claude, je porte bien mon nom, René, je suis né à une nouvelle vie. Et je ne sais pas du tout ce que Jésus va faire de moi, mais j'ai confiance, il va s'occuper de moi. Ça, ce sont les dernières paroles que j'ai entendues de mon grand-père. Et puis il y a même encore une trace qui est restée sur la porte de la ferme pendant des années, traiter les animaux avec douceur. Et il le faisait le dimanche, même s'il y avait une menace d'orage sur les moissons, eh bien, les animaux avaient droit à un jour de repos comme les gens. Et vous n'auriez jamais vu mon grand-père courir dans les champs pour ramasser vite la récolte. Non, il était conséquent, il était fidèle à ses convictions. Ils n'ont pas laissé une grande fortune, mais ils ont laissé un beau témoignage. Ils n'étaient pas parfaits. Notre grand-père était têtu et notre grand-mère était colérique. Je ne sais pas si on en tient peut-être un petit peu, Rose, mais... Mais la grâce de Dieu a fait son œuvre dans leur vie. Et ça se voyait. Humblement, fidèlement, honnêtement, ils ont eu, sans le crier sur les toits, et pour la seule gloire de Dieu, des vies qui parlent. Ça, monsieur, ça, c'était des chrétiens. Juste en face de leur ferme, il y avait la ferme du frère aîné de notre grand-père, Georges, et sa femme Marie. C'était pareil. De simples horticulteurs, maraîchers, deux serres, où ils produisaient du raisin, et ils portaient, avec sa charrette de maraîcher, ils portaient ses productions vers le Roussard à Waterloo. Moi, je connaissais bien leur secret. Parce que le matin, quand vous alliez chez eux, pendant que ma grande-tante Marie pelait les patates, lui, debout, lisait la parole de Dieu et priait. Et ça nourrissait leur vie de la journée. C'était leur secret. Il bénissait Dieu, cet oncle Georges, dans l'assemblée. Je vois encore où il était assis, devant à gauche. Et chaque dimanche, fidèle diacre de l'église, il bénissait son Dieu, humblement. Mais c'était tellement beau. Et puis quand il allait porter ses produits, ses semences, ses raisins, il glissait un traité dans les sachets. Et il se faisait accompagner de Monsieur Macor, Cyril Macor, un ancien alcoolique converti, qui n'était pas un grand orateur, un homme un peu rustre, mais dont le cœur bouillait pour le Seigneur. Et donc, quand ils allaient porter les produits du jardin, eh bien, l'oncle Georges prenait avec lui Cyril, qui pouvait témoigner de la grâce de Dieu dans sa vie d'alcoolique. Une vie qui avait complètement changé. Au point que 30 ans plus tard, quand avec une équipe d'OM, j'ai fait du porte-à-porte à Waterloo, et que je suis arrivé dans ce quartier du Roussard, à 2 kilomètres de notre lieu de culte, les gens m'ont dit « Vous venez de Ransbèche? Vous ne seriez pas famille avec Georges Corbizier? Vous apportez le même évangile. » Et ça m'a touché. Et pas seulement ça, un jour, il y a un vieux couple qui est venu frapper chez nous, Joseph et Mélanie. Ils avaient 75 ans bien fait. Des Flamands qui étaient venus s'installer dans le village au moment des betteraves et des pommes de terre. Et ils étaient restés là. Et ils viennent me frapper à la porte chez nous en disant « Vous ne seriez pas famille avec Georges Corbizier et Marie ?» Il y a 50 ans d'ici, ils nous ont donné un Nouveau Testament. Et on l'a lu, on l'a médité. Je crois qu'il est temps qu'on se fasse baptiser. Ce sont les personnes les plus âgées que j'ai baptisées. Tout ça grâce à ces vies qui avaient parlé. Et vous savez, le fruit de ça, beaucoup de gens sont venus au Seigneur. Armand van der Noot, un fermier du village. Félix Baudanguien, un garagiste. Florentin Debrou, un maçon. Joseph, Mélanie et tant d'autres. Ils ont vu en ce Georges Corbizier une vie qui parlait de Jésus. Leur référence, des années après, c'était encore « Mais Georges Corbizier, il parlait pas comme ça, il agissait comme ça ». C'était leur référence. Et leur témoignage a été bien au-delà de l'Assemblée, parce que j'ai appris beaucoup d'années après qu'ils avaient soutenu des missionnaires au Laos et que ce qu'ils gagnaient, c'était aussi pour aider d'autres à porter l'Évangile. Des vies qui parlent. Ça se manifestait dans toutes leurs relations, des cœurs qui brûlaient pour le Seigneur. Nul besoin d'être des spécialistes, vous le voyez bien. Nul besoin d'avoir fait beaucoup d'études, d'être connu, d'être reconnu, d'avoir des titres, d'avoir des diplômes. C'était des gens tout simples, qui avaient juste fait l'école primaire. mais qui s'intéressait aux autres de la part du Seigneur. Et vous n'imaginez pas, si vous vivez comme ça, les résultats dans votre vie. Le Saint-Esprit vous utilise et Dieu agit au travers de vous, au-delà de ce que vous pouvez penser. Oui, pourquoi pas vous? Alors, deux textes des Écritures qui nous montrent comment Dieu utilise des gens simples pour bouleverser, toucher, intéresser, remuer des régions entières. Le premier texte, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, le premier chapitre, 1 Thessaloniciens 1, les versets 2 à 3 d'abord, et puis 7 à 10. Paul écrit, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 7. « Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe, car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons même plus besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Des vies qui parlent. Ces gens à qui Paul a écrit cette lettre, c'était des tout jeunes dans la foi. Ils ont juste passé 2 mois avec Paul pour écouter son enseignement et regarder son exemple. Et les voilà déjà eux-mêmes des modèles pour les autres croyants. Comment ? Par leur foi agissante, par leur amour actif, par leur persévérance, malgré les moqueries et les oppositions qu'ils ont pu avoir, par leur changement radical de vie, leur coupure avec cette ancienne manière de vivre, par leur vie sanctifiée, habitée, animée par le Saint-Esprit, par leur joie rayonnante malgré les difficultés, par leur espérance ferme, leur regard sur Jésus, par leur enthousiasme, par leur service, à tel point que dans toute cette région d'Achaïe et de Macédoine, une région plus grande que la Wallonie entière, on reconnaît en eux que c'est l'œuvre de Dieu, que c'est la grâce de Dieu, sa bonté, sa fidélité, sa puissance qui les a transformés. Des vies qui parlent. Et ce ne sont pas les premiers, ce ne sont pas eux d'abord qui ont tiré gloire de ça. Ce n'est même pas Paul qui a tiré gloire de ça. Toute la gloire, elle est pour le Seigneur Jésus, dont beaucoup ne veulent pas. Mais les gens, quand ils voient ces jeunes dans la foi, la manière dont ils parlent, la manière dont ils vivent, la manière dont ils réagissent, eh bien, ils se disent, il y a quelque chose. Et ils commencent à s'intéresser à l'Évangile. Ils s'interrogent. Ils se posent des questions. C'est pas possible, c'est pas humain ce qui se passe là. C'est Dieu qui a fait ça, c'est un miracle. Et c'est pas la première fois, parce que quand vous regardez le début du livre des Actes, ça se passe 20 ans avant, à Jérusalem, c'était déjà la même chose. Pierre, Jean et les autres, c'était des gens sans instruction, il est marqué. Mais à l'autorité qui émanait d'eux, à l'assurance qu'il y avait en eux, c'est dans Acte 4, il est marqué, les gens les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ce qu'on voyait en eux, c'était pas des grandes théories, des grandes philosophies, c'était la présence de Jésus dans leur vie. Des vies qui parlent. Ça se manifeste, ça se démontre. On voit l'empreinte, on voit l'esprit, on voit la présence, on voit la manière de parler, d'agir de Jésus. Et même Gamaliel, qui était un opposant, c'était un chef pharisien, il dit, écoutez, si ça vient de Dieu, ça va continuer. Si ça vient des hommes, ça va s'arrêter tout seul. Mais ne vous opposez pas si ça vient de Dieu. Il reconnaissait que ça venait de Dieu. Jésus n'a jamais demandé que nous fassions des choses pour lui. Ce qu'il nous a demandé, c'est que nous restions attachés à lui. Et il a dit, si vous restez attachés à moi, si vous vous appuyez sur mes paroles, si vous restez en relation avec moi, si vous continuez à m'écouter, à me parler, eh bien, il y a des fruits qui vont apparaître. Votre vie va porter des fruits, comme des sarments, quand ils sont attachés au, comme les sarments qui portent des fruits quand ils sont attachés au cep. On sait ce que c'est, nous, hein, Rose, on a vécu dans cet environnement des serres. Et c'est vrai que le Seigneur nous dit, restez attachés à moi et vous allez voir que vous allez porter des fruits. Vous aurez des vies qui parlent. Alors les exemples que je vous ai dit jusqu'ici, c'était des exemples de gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études, mais qui étaient attachés au Seigneur et ça se voyait. Ça, monsieur, ça c'était des chrétiens. Mais ce n'est pas réservé à des gens qui n'ont pas fait d'études. Et il y a peut-être parmi vous des gens qui aident des cadres, qui aident des responsables. Il y a des jeunes qui se forment pour avoir des responsabilités demain. Il y a des intellectuels, il n'y a pas que des manuels. Eh bien, ça s'adresse aussi à vous. Regardez dans le livre de Daniel au chapitre 3 et au verset 28 à 30. Daniel 3, 28 à 30. Nabucodonosor prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi et ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Et encore, dans le chapitre 6, versets 26 à 29, après cela, le roi Darius, c'est un autre empereur, écrivit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix soit avec vous en abondance. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre, c'est lui qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Daniel lui-même prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, quatre jeunes qui ont été déportés de Jérusalem à Babylone, c'est pas n'importe qui. Ce sont des jeunes de l'élite, de l'aristocratie, de la cour de Juda à Jérusalem en Israël. Et ces jeunes déportés vont poursuivre à Babylone leur formation. Un peu comme s'ils faisaient un projet Erasmus, quoi. Un peu ça, hein. Et ils vont poursuivre cette formation en vue d'exercer des fonctions publiques dans leur pays après. Voilà comment Nabucodonosor organise son royaume. Imaginez-vous, mettez-vous à leur place. Ils auraient pu se laisser aller quand ils arrivent là-bas, à une vie mondaine, à une vie facile, à une vie corrompue. à une vie idolâtre, ils sont loin de la maison. On fait ce qu'on veut. À viser une réussite humaine au détriment de leur foi en Dieu. À oublier Jérusalem, à oublier les promesses de Dieu, à oublier la parole de Dieu, à oublier Dieu. Au contraire, et c'est ça qui va les garder, dès le début, ils prennent une ferme résolution de continuer de prier, d'écouter et d'obéir à Dieu. Au risque de perdre leurs avantages, au risque de perdre leur place, au risque de perdre leur vie, pour ne pas se mettre en porte-à-faux par rapport à la foi qu'ils ont en Dieu. Au cœur d'un monde païen, d'un monde qui se détériore, qui se dévoie et qui risque de les emporter, ils gardent leur espérance en Dieu, ils gardent leur relation avec Dieu. Leur cœur est pour l'assemblée et leur manière de tenir, leur manière de résister, leur manière de vivre la parole de Dieu parle. Nabucodonosor. Moi, ce nom me faisait rêver au cours d'histoire, quand j'avais 12 ans. Nabucodonosor. Que ça sonne bien. Qui se croit le maître du monde. Et il faut dire que son empire, il allait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Lui qui se fait adorer comme Dieu. Lui qui signe des lois, des décrets irrévocables. La loi des Mèdes et des Perses. Aux conséquences tragiques pour les amis croyants. Il est impressionné par leur sagesse, par leur témoignage. Et il reconnaît et il proclame que le Dieu de ces jeunes-là, c'est le seul vrai Dieu. Incroyable, inimaginable. Nabucodonosor, il est tombé sur sa tête. Et après lui, Darius, le Mède, arrive à la même conclusion, à la même conversion, à la même communication par les médias de l'époque. Est-ce que c'est possible? Tout simplement parce que ces quatre jeunes ont eu des vies qui parlent. Avec persévérance, avec humilité, avec amour, avec courage, avec patience, avec fidélité. Daniel et ses trois amis étaient attachés au Dieu qui fait l'histoire. Ce n'est pas simplement une histoire. Ce sont des jeunes formés, responsables, qui se sont attachés au Dieu qui fait l'histoire. Et ce sont eux qui ont influencé leur temps et pas l'inverse. Quatre empereurs se sont succédés. Et eux, ils sont restés en fonction pendant 69 ans. Reconnus, appréciés. Vous avez lu la lettre de ces deux empereurs, Nabucodonosor et Darius. Ils disent dans leur lettre, ce sont des hommes du Dieu très haut qui vit éternellement, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Le Dieu qui sauve et qui délivre. Le Dieu qui opère des signes et des prodiges, le Dieu qui garde son alliance et sa bienveillance envers ceux qui l'aiment et qui gardent sa parole. Waouh! Waouh! Vous entendez ça sur les ondes? Oh, mes amis, vous qui êtes au poste de responsabilité, les choix que vous faites aujourd'hui marqueront toute votre vie et influenceront d'autres qui vous regardent. Des collègues, des autorités, vos voisins, vos familles. Imaginez demain votre chef, votre patron, Paul Magnette, Monsieur Chastel, qui viennent vous dire, ta vie me parle, fais-moi connaître ton Dieu. C'est pas moins que ça. Savez-vous qu'aujourd'hui, la moitié de tous ceux qui ont vécu sur la terre sont vivants sur la terre aujourd'hui. Avec le nombre qui se multiplie tellement, la moitié de tous ceux qui ont vécu sur la terre sont vivants aujourd'hui. Et la plupart ne connaissent pas Jésus. Ne lisent pas la Bible et ne fréquentent pas d'église. Beaucoup vous regardent vivre. Et c'est la seule chose qu'ils verront de Dieu. Soyons-en conscients. Soyons sensibles aux occasions que Dieu nous donne. Soyons sérieux, soyons vrais, soyons conséquents. Et conséquent, ça ne veut pas dire important. Ça veut dire soyons fidèles à ce que nous croyons et à ce que nous pensons. Qu'il n'y ait pas de décalage entre ce qu'il y a là-dedans et ce que nous vivons. Ne faisons pas honte à Jésus par notre comportement. Que nos vies soient attachées au Seigneur vivant et vrai. Le Saint-Esprit fera son œuvre. C'est ça le secret. Vous ne pouvez pas mesurer l'impact sur ceux qui vous entourent. Parce que les gens qui vous entourent, ils ont, comme disait Francis, un vide intérieur qui a la forme de Dieu. Et en fait, ce qu'ils cherchent sans le savoir, c'est celui qui va remplir ce vide. Et ça, c'est pas une religion, c'est pas une église qui y répondra, il n'y entre pas. C'est ce qui déborde de toi. Sa bienveillance dans ta vie et dans tes actes, en accord avec ta foi. Pour terminer, j'aimerais vous laisser un mot d'ordre. Et c'est dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, le verset 1 et 2. 1 Pierre 2, verset 1 et 2. Non, c'est le verset 12, excusez-moi. C'est le 1 et 2, mais il n'y a pas de trait d'union entre les deux. 1 Pierre 2, 12. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Au milieu des païens, ayez une vie qui parle. Et quand le Seigneur va venir frapper à la porte de leur cœur, il y a quelque chose qui va devenir clair pour eux. Ça va sonner juste. Mais oui, ça ne m'étonne donc pas que... Amen. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Que notre Seigneur bénisse le témoignage rendu par chacun de nous et par l'Assemblée de Jumet. Bien sûr, vous avez des projets pour que l'Évangile gagne du terrain. Mais par-dessus tout, je vous parle de ce témoignage vécu, en parole et en acte, des vies changées, des vies purifiées, des vies habitées, des vies animées par son Esprit Saint, des vies qui parlent. Amen. Une prière dans le psaume, Francis aime les psaumes, le psaume 67. Et versets 2 et 3, que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face. Ça, c'est une bénédiction que le sacrificateur prononçait sur l'assemblée d'Israël, c'est nombre 6, la fin de nombre 6. Que Dieu nous accorde sa grâce, qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux? Mais regardez le résultat. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Quand la grâce de Dieu, la présence de Dieu est sur ta vie, ça se voit. Et les gens qui habitent autour le réalisent. Vois la présence de Dieu dans ta vie. Je termine par les paroles d'un chant de Philippe de Courroux. Et j'aime bien Philippe de Courroux, un homme qui, ça sonne juste ce qu'il chante. Dans le disque à contre-courant, il y a un chant qui s'appelle « Change le monde ». Il y a toujours quelqu'un, quelque part, pas si loin, il y a toujours quelqu'un au hasard d'un chemin, il y a toujours quelqu'un qui ne vous demande rien, mais qui attend, pourtant, qu'on lui tende la main. Simplement, simplement, et pour rien. Il y a toujours quelqu'un pour te dire « à quoi bon ?» Il y a toujours quelqu'un pour médire sur ton nom. Il y a toujours quelqu'un qui criera que ça ne sert à rien. Il ne faut pas les croire. L'espoir, on ne le bâtit pas sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on sait, sur ce qu'on croit. Change le monde, il t'appartient. Change le monde avec toi, il sera meilleur demain. On ne peut pas tout changer dans le monde, mais tous, chacun, vous et moi, on peut changer quelque chose. Amen.